Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux élections de mardi prochain aux États-Unis, les élections de mid-term qui marquent la moitié du mandat de Donald Trump. Jusqu'à présent, le parti républicain dont l'actuel président était le candidat contrôle également le Congrès composé de la Chambre des représentants, 435 députés, et du Sénat, 2 sénateurs pour chacun des 50 États américains. Si les républicains perdaient le contrôle d'une, voire des deux chambres, la capacité d'action de Donald Trump serait fortement réduite, comme l'avait été celle de son prédécesseur Barack Obama. L'enjeu de ces élections est donc central. D'abord pour les Américains eux-mêmes, dont la société est polarisée comme jamais depuis 1865 et la fin de la guerre de sécession. Pour en parler, nos invités par téléphone depuis Washington, Kenneth Weinstein, président et directeur du think tank Hudson Institute. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, auteure de Trump, la revanche de l'homme blanc chez Textuel et géopolitique des États-Unis chez Erol. Bonjour.
Bonjour.
Et Sylvain Sipel, journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont Un nouveau rêve américain, La fin de l'Amérique blanche aux éditions Autrement, et Un Trump, ça tweet énormément aux éditions Le 1. Bonjour.
Bonjour.
On a le sentiment que rarement des élections ont été aussi importantes pour un président américain que celle du 6 novembre prochain, donc mardi prochain. On peut le rappeler, un président mal élu il y a 2 ans, avec beaucoup moins de voix que sa rivale Hillary Clinton, confronté depuis son arrivée en fonction à un procès en illégitimité, sa compétence est remise en question. Il doit faire face à des critiques et des opérations de déstabilisation, et il donne l'impression que le lien direct avec le peuple est le seul moyen pour survivre politiquement et s'imposer au système. Élection importante, je l'ai dit. En même temps, rarement une campagne n'aura connu autant de stress, autant de tensions. Kenneth Weinstein, quelle est l'ambiance aux États-Unis aujourd'hui?
D'abord, l'ambiance est sombre après l'attentat antisémite et les meurtres à Pittsburgh. Donc, l'ambiance est sombre et certainement des deux côtés, et les républicains et les démocrates, les militants sont en train de monter leur campagne à un niveau jusqu'à ce moment inattendu, surtout chez les démocrates qui ont un esprit de revanche après leur défaite en 2016 et après un an et 10 mois de la présidence de Donald Trump. Donc c'est un moment qui est certainement plein de tensions, mais on doit aussi regarder, point de vue économique, l'économie est forte, la croissance est forte. Donc, on sent quand même un changement qui vient au sein de la nation.
Alors, on parlera un tout petit peu plus tard des questions économiques, bien sûr, pour dresser un premier bilan de la présidence Trump. Je souhaiterais peut-être rebondir avec vous en studio, Sylvain Sipel et Marie-Cécile Nave, sur les divisions aujourd'hui qui prévalent aux États-Unis. On sent bien que tout est très idéologique, polarisé. Dans quelle mesure Donald Trump est-il responsable du ton qui prévaut aujourd'hui dans la campagne ? Marie-Cécile Nave.
Il est grandement responsable, puisque autant dans les années Obama, la société était elle-même clivée, divisée, parce que c'était un président qui, malgré lui, eh bien, créé un certain nombre de clivages, qui a attisé une forte opposition. Autant aujourd'hui, le président actuel les entretient, les désigne chaque jour des boucs émissaires, que ce soit les médias. Il a fait des tweets récemment pour dire que les vrais ennemis du peuple, sous-entendu, c'est pas les suprémacistes blancs, c'est pas les antisémites, c'est les médias qui relaient des fausses nouvelles. Quand il dit les médias, c'est
tout sauf Fox News.
Oui, tout sauf Fox News, et aussi les radios conservatrices qu'on écoute dans sa voiture quand on fait beaucoup de routes dans le Midwest, et qui ont un poids très important, avec des animateurs comme Rush Limbaugh par exemple, qui ont une influence très très importante dans l'Amérique conservatrice. Les démocrates sont accusés de semer le chaos. Et puis il y a aussi beaucoup de mots très ambigus, de phrases très ambiguës par rapport à l'antisémitisme, avec des accusations de George Soros qui financerait l'opposition.
Contre George Soros.
Oui, disant que George Soros financerait les démocrates, soutiendrait les femmes qui ont combattu contre la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Et puis tout ça, c'est un discours qui est performatif. C'est-à-dire, ça produit des effets à la fois sur les élus républicains qui vont jusqu'à dire que certains, une minorité quand même, qui disent que c'est un peu peut-être une sorte de complot juif qui fait venir les immigrants du Honduras. Aux États-Unis, quand ce ne sont pas les minorités, Trump critique et prend comme bouc émissaire la communauté LGBT avec des mesures qui viennent d'être annoncées contre les droits des transgenres. Et je parle même pas des femmes, où là, évidemment, la question, les droits des femmes sont largement menacés aux États-Unis. Donc il y a comme ça toujours une division qui est entretenue. Il entretient les clivages et il joue là-dessus. Et donc, évidemment, ça a des effets très concrets sur les oppositions politiques et je pense aussi sur certaines envies de passage à l'acte. On est dans un climat de tension forte, mais il y a aussi de la violence politique importante.
Et on l'a vu avec les colis piégés dont George Soros était d'ailleurs récipiendaire. Voilà, oui. Sylvain Sipel.
Comme vous dites, on l'a vu. Alors, je veux quand même reprendre la question que vous posiez. C'était, est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Je rappellerai quand même qu'il y a eu le macartisme avec une division dans les années 50. Il y a eu des divisions extraordinairement puissantes à l'époque des droits civiques dans les années 60. Donc, on peut pas dire que vraiment, cette image qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire deux Amériques, il y a vraiment deux Amériques, il y a une Amérique urbaine, mondialisée, comme on dit, qui, on le voit, alors, en Californie, c'est extraordinairement flagrant, mais c'est pas seulement en Californie. Je donnerai un chiffre, je crois que sur les 120 plus grandes villes américaines, il y en a 105 qui sont dirigées par des démocrates. Donc, si vous voulez, il y a une Amérique urbaine, intégrée, et une Amérique, je dirais, par dérision macroniste, successful, hein, qui est très, très amplement démocrate. Et vous avez une Amérique qui est celle qui a un mal fou à s'adapter aux évolutions sociétales, et qui est globalement Trump. Alors, il y a ceux qui, effectivement, ne peuvent pas admettre la dépréciation de l'homme blanc, si longtemps dominant, et qui, peu à peu, par le biais des évolutions démocratiques normales, c'est pas seulement l'immigration, c'est l'évolution. Si vous voulez, 60 millions de personnes sont entrées aux États-Unis légalement sur le dernier demi-siècle. C'était une politique organisée, normale. Et donc, cette Amérique-là devient insupportable précisément par ces gens qui perdent cette maîtrise, qui ont le sentiment qu'ils sont les perdants de ces changements et ils font grief aux immigrés. Et la force de Trump a été de faire cette alliance, hein, entre une Amérique réactionnaire, évangéliste, celle qui vient de triompher au Brésil, etc. Et puis, une Amérique nationaliste. Et America First, c'est un vieux slogan. Ça a même été le slogan de Lindbergh à un moment.
Alors, je vais me tourner vers Kenneth Weinstein. Quelle réaction vous avez, Monsieur Weinstein, par rapport à ce qui vient de se dire en studio? Vous partagez ce que, à la fois, Marie-Cécile Nave et Sylvain Sipel ont dit jusqu'à présent?
Bon, je dois dire qu'effectivement, oui, la nation est divisée, mais je suis bien d'accord que cette division date bien avant Donald Trump, et que ces divisions sont en train de refaire même au sein de nos médias. Donc, je parle d'abord de New York Times et Washington Post, tous les deux qui ont effectivement changé de style depuis vraiment aux alentours de l'élection de Donald Trump. Ils ont décidé de devenir des journaux qui sont plutôt des journaux style européen, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, avant, on avait une division claire entre ce qu'on dit les éditoriaux, donc le commentaire qui se passait au milieu du journal et les actualités. Mais là, et le New York Times et le Washington Post, à cause de l'Internet, à cause de besoin de monter le nombre de gens qui lisent les journaux tous les jours, ils ont décidé de couvrir la politique, de faire des reportages qui sont beaucoup plus politiques qu'avant. Donc, on regarde la une de New York Times, on regarde la une de Washington Post, on a presque le même sentiment que de lire un journal de gauche en Europe. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du tout le genre de reportage d'avant les élections. Donc, il y a un changement, les clivages se font tout autour, au sein de certainement de notre société. Et il y a certainement une partie importante du pays qui avait le sentiment de ne pas être respecté par la politique de Hillary Clinton, la politique de Barack Obama, de quelque manière méprisée, qui était une partie importante de l'électorat de Donald Trump. Et donc ça se fait des deux côtés.
Sylvain Sipel.
Non, c'était juste pour remarquer que je suis en partie d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, le Washington Post et le New York Times ont pris la tête d'une campagne contre Trump parce qu'ils sont agressés depuis le début de la campagne de Trump, qui les traite de fake news en permanence. Et finalement, c'est vrai que aujourd'hui, ils ont pris comme option de répondre. Et ils font, finalement, que font-ils ? Ils font un petit peu ce que Fox faisait beaucoup depuis plus d'une décennie, si vous voulez. Durant tout, il fallait voir Fox News dans la période d'Obama. Alors, ils sont effectivement, comment dire, pas soumis, mais ils ont en partie adhéré à ce type d'attitude médiatique. Mais ça n'est que la manifestation de la bipolarisation qui touche maintenant l'Amérique. Il y a une vraie bipolarisation. Alors, on parle toujours des électeurs indépendants.
Oui, moi, c'est la question que j'allais vous poser. On voit un centre assez silencieux. Voilà. Quelles en sont les raisons, Sylvain Sipel, et peut-être...
On verra au résultat des midterms. On va voir. Le dernier sondage sur Real Clear Politics, hein, qui fait une péréquation de tous les sondages. Bon. Il donne un résultat, on exclut le Sénat. Au Sénat, les démocrates ne pourront pas gagner le Sénat. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le nombre de ceux qui sont à réélire est insuffisamment faible. Il y a trop de sénateurs démocrates. Bref, ils ne peuvent pas prendre le Sénat. En revanche, la clé, c'est la Chambre. La Chambre, d'après Real Clear Politics, tous les sondages disent que les démocrates vont gagner en nombre de voix. Mais ça fait déjà deux fois qu'ils ont gagné en nombre de voix et qu'ils n'ont pas la majorité, à cause du gerrymandering et à cause de la manière de bâtir les circonscriptions. Le dernier sondage, c'est démocrate 204, républicain 199, c'est quasiment égalité.
5 voix de...
Et 35 indécis. 35 élections très indécises. Il faudrait que les démocrates gagnent quasiment toutes ces élections indécises pour l'emporter.
Et les indécis, on ne sait pas dans quel camp ils sont, s'ils sont
les
traditionnellement plutôt chez les républicains ou les démocrates.
D'après les sondages de vote, les indécis sont majoritairement démocrates. Aujourd'hui, ils sont majoritairement démocrates. Mais en même temps, il faut tenir compte des circonscriptions. Et le découpage électoral, et ce qu'on appelle la cuisine électorale aux États-Unis, est un métier. Et actuellement, la plupart a été faite par des gouverneurs républicains et avantage très notoirement le camp républicain.
Marie-Cécile Nave, un commentaire.
Oui, une des clés des midterms, c'est la participation électorale dans un camp comme dans l'autre.
Généralement assez faible, on peut le rappeler, mais peut-être que ça va changer cette fois-ci.
Généralement assez faible, hein, moins de 50% de participation, mais les élections intermédiaires qui ont lieu jusque-là ont montré que les démocrates s'étaient massivement déplacés pour aller voter. Ça ne veut pas dire que le 6 novembre ou et dans le vote par anticipation, ce sera le cas, mais c'est vraiment une des clés, parce que autant il y a un sentiment anti-Trump très très fort, hein, c'est-à-dire il est toujours, même si aujourd'hui il a une popularité importante, il a 45-46% de popularité, ça reste quand même en dessous de la barre des 50%, il a jamais réussi à franchir la barre des 50%. Il y a un sentiment anti-Trump très fort, ça veut pas dire que les gens vont se reconnaître dans les candidats et les candidates démocrates qui leur sont proposés, et c'est un des problèmes du Parti démocrate, qui a une plateforme nationale, c'est un programme, une profession de foi nationale encore très centriste, encore très libérale au sens français du terme sur le plan économique, qui pour beaucoup de citoyens est un peu éloigné de leurs préoccupations, mais on voit monter des candidats et surtout des candidates qui poussent l'agenda vers la gauche et qui renouvellent aussi potentiellement le personnel politique. On verra si ça trouve son public le 6 novembre.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Effectivement, Kenneth Weinstein, on voit, si on devait donner quelques particularités de cette campagne, émerger de nouveaux candidats, en particulier des femmes et des jeunes. Vous l'avez dit, c'est une campagne très politique, une campagne, on l'a évoqué, violente. Conséquences ou non des discours sur la haine de Donald Trump. Une autre particularité, c'est que... Donald Trump s'est beaucoup investi dans la campagne pour ces élections de mi-mandat. C'est presque une première, Kenneth Weinstein.
Oui, effectivement, le président s'est bien lancé au milieu de certainement de la campagne. C'est c'est assez normal de quelque manière dans les élections de mi-terme. Mais certainement chacun de en général les candidats démocrates sont en train de cibler le président et du point de vue de leurs propres électorats et aussi du point de vue de fundraising qui devient le facteur majeur dans toutes les circonscriptions et surtout dans pour les sénats où surtout dans les grands états la télévision coûte la publicité à la télé coûte très cher. Donc, mais même il y a des candidats qui ont effectivement reçu des donations inattendues comme Beto O'Rourke, candidat pour le Sénat à Texas contre le sénateur Ted Cruz. Et malgré un montant de 72 millions de dollars qui continuent à monter pour Beto O'Rourke, il paraît que Ted Cruz reste en tête. Donc, certainement, il y a des visages nouveaux qui vont sortir de la campagne. Il y a certainement Beto O'Rourke. Il y a Ocasio-Cortez, une dame qui a, je crois, 27 ans dans le Queens de New York, qui a battu dans le primaire démocrate un candidat plutôt gauche-centriste avec bon langage proche du sénateur Elizabeth Warren, Bernie Sanders, de cette partie du Parti démocrate qui se présente comme le nouveau visage du parti. Et certainement, ceux qui sont au Congrès bien avant ne sont pas contents de voir quelqu'un qui gagne autant de médias. Donc, elle passe bien à la télé, elle est intelligente, mais déjà dans quelques anciennes, elle a monté qu'elle manque une maîtrise forte des questions politiques. Mais on va certainement voir l'émergence de quelques visages nouveaux et surtout comme m'était dit, les candidats sont plutôt à gauche du parti, malgré un visage centriste que le parti essaie de montrer. Ils sont certainement le parti va être nettement à gauche après cette élection.
Sylvain Cipel.
Oui, je vais tenter de répondre à la question pourquoi il s'investit autant.
Le président.
Ce qui est relativement inattendu, mais il faut se souvenir comment il est parvenu à être élu. Il est parvenu à être élu contre la volonté de l'appareil du Parti républicain qui ne voulait pas de lui. Et donc il a imposé par une mobilisation qui a surpris l'appareil républicain, il s'est imposé, lui, au Parti républicain. Et depuis son élection, le Parti républicain, il tangue, mais il n'ose pas se séparer de lui.
Mmh. Il donc reste plutôt uni par défaut, pour l'instant.
Il est uni par défaut, je dirais ça.
Pour l'instant,
et donc, il est absolument convaincu que ce qui lui a permis de gagner une fois est la seule voie pour lui pour gagner à nouveau. C'est important pour lui de gagner cette élection, c'est-à-dire que les Républicains préservent la Chambre, parce qu'il sait que si les démocrates s'en emparent, surtout s'ils s'en emparent avec une majorité suffisante, au moins 10 députés, 10 élus, 10 représentants, il aura une vie beaucoup plus difficile. Oui. Il y aura toute une série de projets qu'il ne parviendra plus, en particulier de projets fiscaux qu'il ne pourra plus parvenir à faire adopter. Donc pour lui, c'est assez important. Il est convaincu qu'en personnalisant cette élection, en faisant un référendum sur sa personne, c'est à nouveau le moyen de mobiliser la base et d'amener, et donc il s'agit d'effrayer, donc évidemment, on a vu sa réaction par exemple immédiatement après les derniers événements, si vous voulez, il s'agit instantanément d'effrayer ou de faire des propositions qui ne, entre guillemets, ne tiennent pas la route, comme la dernière proposition d'abolir le droit du sol, parce que sur le plan constitutionnel, ça prendrait, c'est une promesse qui ne tient pas par décret.
En tout cas, c'était
cela
très électoral à quelques jours.
C'est cet électorat qu'il faut impérativement mobiliser pour qu'il s'impose à l'ensemble de l'électorat républicain. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais c'est comme ça qu'il a réussi une fois. Il est convaincu qu'il faut répéter l'opération.
Je vous propose dans la deuxième partie de l'émission, Marie-Cécile Nave, de rebondir là-dessus. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Kenneth Weinstein, Marie-Cécile Nave et Sylvain Cipel, après le journal.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur les élections de mi-mandat qui se tiennent mardi prochain aux États-Unis. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Washington, Kenneth Weinstein, président et directeur du think tank Hudson Institute, Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc chez Textuel et géopolitique des États-Unis chez Erol, et Sylvain Sipel, journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages dont Un nouveau rêve américain, La fin de l'Amérique blanche aux éditions Autrement et Un Trump ça tweete énormément aux éditions du 1. On le sait, une part décisive de l'élection se joue sur le terrain économique et social. Au premier abord, tout va pour le mieux aux États-Unis. Le PIB par habitant y dépasse de 8,6% son niveau d'avant la crise de 2007. Le chômage est à 3,7%, moins qu'avant la crise également. Tout de même, pour ce qui est des nuages dans le ciel, une crise sanitaire qui commence à avoir un impact sensible sur la capacité des États-Unis à produire des richesses, un accroissement des inégalités de revenus. Et ce redressement des États-Unis repose sur une politique budgétaire très expansive, intenable à terme. Le déficit public devrait représenter cette année 5,3% du PIB contre 0,7% dans la zone euro. Kenneth Weinstein, une Amérique économiquement forte mais très fragile.
Certainement, c'est une Amérique économique plus forte du point de vue de la croissance, avec l'espoir que la croissance économique va augmenter les recettes de l'Union fédérale pour effectivement réduire la montée du déficit sortant. Mais on voit quand même une chute historique du chômage. Aussi 6 millions de postes dont on n'a pas encore trouvé des personnes pour les prendre. Donc on voit quand même des signes d'une économie forte qui démarre. Et le président disait effectivement que sa politique de réforme de l'économie n'est pas tout à fait accomplie. On a quand même le sentiment de la réplique économique est forte ici.
Marie-Cécile Nave.
Oui, la baisse du chômage et la reprise de la croissance s'inscrivent dans un assez long temps. C'est-à-dire, c'est vraiment depuis 2010 qu'on est dans cette tendance-là. Certes, la politique, notamment la politique fiscale de Trump, a accru la confiance des entreprises. C'est pas pour autant qu'elles ont embauché massivement, ni qu'elles ont rapatrié leurs emplois de l'étranger. Elles ont rapatrié un certain nombre de capitaux de l'étranger du fait de la réforme fiscale. Mais il n'y a pas eu les créations massives d'emplois qui étaient attendues. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, le creusement du déficit fédéral avec notamment l'augmentation incroyable du budget de la défense. Et puis, bien sûr, les baisses d'impôts. Conduisent le FMI à mettre en garde les États-Unis en disant là vous êtes un peu le fil du rasoir, il faut aussi envisager les choses à plus long terme. Il y a un risque aussi, et c'est la tendance en 2018, d'augmentation du dollar par rapport à l'euro qui fragilise donc les exportations. Il y a un risque d'inflation et la Wall Street a fortement chuté ces derniers jours, ce qui a conduit le président Trump à accuser la Fed de mener une politique contre ses intérêts, d'avoir augmenté les taux, etc. Donc on est dans une situation certes favorable, qui pourrait être plus favorable pour les travailleurs américains. Je répète ce qu'un certain nombre d'économistes de tous bords disent aux États-Unis, qui est que si vraiment on était dans une situation de plein emploi, eh bien les salaires augmenteraient beaucoup plus qu'ils n'augmentent aujourd'hui, même s'ils augmentent, mais quand même, ça pourrait être mieux. Et puis, il y a une fragilité, parce qu'il y a un manque, mais ça c'est typique de Trump, il y a un manque d'anticipation de l'avenir, qui, selon le FMI, pourrait d'ailleurs conduire à un retour de la crise dans les années qui viennent.
Sylvain Sipel.
Je voudrais juste faire une remarque. Après avoir passé 6 ans aux États-Unis, je suis assez rapidement parvenu à la conclusion que les chiffres qui tombent chaque mois disent assez peu de la réalité économique des États-Unis. Quand on dit il y a une forte croissance, ça ne dit rien de la répartition de ces richesses aux États-Unis. La croissance, à qui bénéficie-t-elle? Quand on dit 3,8% de chômeurs, ça ne dit rien de la réalité de l'emploi. C'est pas lié à Trump. Je pensais exactement la même chose quand Obama était au pouvoir. C'est-à-dire que, pour prendre le cas du chômage, en fait, le nombre de personnes qui ont été exclues par la crise de l'emploi et qui sont exclues des statistiques du chômage parce qu'ils en sont sortis, fait par exemple que si on prend le seul chiffre qui a un sens véritable, c'est-à-dire la proportion de personnes en âge de travailler qui ont un travail réel eh bien, le taux de gens qui travaillent aux États-Unis n'est pas supérieur à celui de la France. Or, la France a 10% de chômeurs et les États-Unis 3,8. Donc, les chiffres du chômage qu'on nous avance pour expliquer l'économie américaine qui se porte si bien, à mon avis, sont des chiffres qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes. Mmh.
Alors, Marie-Cécile Nave évoquait les dépenses dans le domaine de la défense. Il est vrai qu'on a vu les dépenses d'armement considérablement augmenter ces dernières années, alors qu'elles avaient baissé sous Obama, donc il y a vraiment une reprise. Avec ce chiffre, les États-Unis dépensent 700 milliards de dollars pour leur défense. C'est plus de deux fois plus que les Européens réunis, et ça représente plus de 40% des dépenses militaires mondiales. Qu'est-ce que, Kenneth Weinstein, ces chiffres reflètent finalement de la politique de Donald Trump avec cette question, puisque c'est une inconnue, celle de savoir ce que va faire l'Amérique de sa puissance militaire?
Bon, d'abord, c'est la dissuasion. C'est une partie importante de l'électorat qui disait effectivement, après la présidence de Barack Obama, après la guerre civile en Syrie, après l'invasion russe de l'Ukraine, qu'il faut, et après des actions par la Chine à l'égard de ses voisins en Asie, qu'il faut que les forces de dissuasion en général des États-Unis soient augmentées afin d'avoir la crédibilité à faire face à des défis internationaux. Donc c'est tout d'abord ça, de refaire la marine américaine, de refaire de quelque manière les forces aériennes. Ils ont quand même des bateaux qui datent de long âge, des avions qui ne sont pas utilisables 7 jours sur 7. Donc c'est largement pour ça, pour montrer que les défis internationaux sont importants et que nos forces armées sont prêtes à faire face à ce qui est nécessaire.
Alors, on l'a vu hein, sur le plan intérieur, cette élection de mi-mandat, elle est évidemment extraordinairement importante. Elle est importante aussi pour le reste du monde, en particulier pour la lutte contre le réchauffement climatique, l'importance aussi pour l'avenir de la mondialisation. Trump ne cache pas son intention de remettre en cause les tentatives de régulation multilatérale, tant en matière commerciale que fiscale et sociale ou encore financière. Et puis, cette échéance électorale qui est également essentielle pour l'Europe, que Trump a été le premier président américain depuis 1945 a considéré comme une ennemie des États-Unis. Alors, on va détailler tout cela, mais cette semaine, on a vu le président américain hausser le ton en appelant à la fin de la guerre au Yémen. L'actualité avec notamment l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, est-ce qu'elle donne cette actualité tort, d'après vous, à la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie saoudite et quelles peuvent en être les conséquences? Qui souhaite répondre, Sylvain Sipel?
Je vais commencer par dire une chose qui, je crois, ne n'est pas vraie que de moi. Je ne comprends pas la politique américaine dans cette région du monde. L'incohérence de la politique de Trump au Proche et au Moyen-Orient est absolument sidérante. Aujourd'hui, il dit qu'il veut arrêter la guerre au Yémen. Hier, il disait qu'il allait retirer les troupes de Syrie, puis le lendemain qu'il allait les augmenter, puis qu'il reste dans la zone kurde, et puis qu'il va bombarder ailleurs. Enfin, c'est tout à fait incohérent. Évidemment, je ne suis pas dans le sérail, donc je ne sais pas exactement qui décide quoi. Mais ce que je peux constater, c'est que en 2 ans, jamais l'Amérique n'est apparue aussi absente du terrain en réalité que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand des puissances veulent décider de quel sera le visage du Moyen-Orient demain, elles se retrouvent à Téhéran. Il s'agit de l'Iran, de la Turquie et de la Russie. Et ce sont les vrais décideurs dans la région. Et les États-Unis ne sont que spectateurs. C'est ça la réalité. Alors, la question évidemment, c'est la relation avec l'Arabie saoudite. C'est une relation pivot. Les Israéliens, dans cette région, depuis la disparition de la puissance égyptienne, les deux vecteurs de la puissance américaine dans la région, c'est Israël et l'Arabie saoudite. Israël est un vecteur stable, l'Arabie saoudite ne l'est pas. On l'a vu avec l'affaire Khashoggi récemment, et je ne sais pas du tout quelle peut être la politique de Trump vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'Arabie saoudite, où, à l'évidence, les tensions sont très nombreuses, très importantes. Il serait temps. On a longtemps considéré que rien ne pouvait se faire au Moyen-Orient sans les États-Unis. Aujourd'hui, Trump a fait la démonstration que les États-Unis comptent de moins en moins.
Alors Marie-Cécile Navre, réaction à ce que vient de dire Sylvain Sipel, et peut-être je demanderai à Kenneth Weinstein ensuite de nous éclairer sur la politique américaine au Moyen-Orient.
Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. On est vraiment, et ça c'est valable pour toute la politique étrangère de Trump, dans une vision... Enfin, c'est une vision très court-termiste des choses, c'est-à-dire d'une part parce que quand il parle et quand il fait de la politique étrangère, il s'adresse d'abord à son électorat, donc le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est ça, c'est pour faire plaisir à l'électorat, non pas juif, mais chrétien évangéliste, qui a une vision très messianique des relations internationales. Le lien avec l'Arabie Saoudite, il est d'abord et avant tout commercial, c'est l'Arabie Saoudite qui achète des centaines de milliards d'armes aux États-Unis. Et d'ailleurs, il le dit, parce que la manière dont il gère l'affaire Khashoggi, c'est tout à fait ambivalent. Il dit, en mots, il condamne ce qui s'est passé, mais bon, en étant quand même pas forcément très clair, en disant, mais si on doit rompre nos relations commerciales, c'est pas à moi de le décider, c'est au Congrès. Et puis, il fait aussi des tweets en disant, il y a quand même beaucoup d'emplois en jeu. Sous-entendu, on peut pas comme ça rompre cette relation. Et la deuxième raison pour laquelle, pour moi, c'est une politique à très très court terme, il n'y a pas de véritable stratégie, il n'y a pas de véritable vision globale, c'est que en fonction du rapport de force dans son entourage, eh bien, les décisions ne sont pas les mêmes. En ce moment, ce sont des gens très durs dans la politique étrangère, avec quelqu'un comme John Bolton qui l'a poussé à mettre fin au traité sur les armes nucléaires avec la Russie là très récemment, qui il y a encore quelques mois disait qu'il fallait bombarder la Corée du Nord. Parfois, ça peut être d'autres types d'un entourage plus réaliste, un peu plus favorable à la négociation. En fonction du turnover dans son équipe, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le voit. Et puis Mike Pompeo au Département d'État, c'est un peu John Bolton un peu moins dur, mais enfin, c'est quand même cette ligne-là et on n'a pas de vision. Et après, la volonté des États-Unis de vouloir dominer certains pays ou de vouloir mettre à l'écart certains pays dans le monde, et je pense en particulier à la Chine, eh bien, ça a des effets contre-productifs puisque la Chine est en train de se rapprocher de la Russie sur un plan géostratégique et sur un plan économique. Donc ça renforce finalement la Chine et d'une certaine manière la Russie, alors que précisément le but était d'affaiblir la puissance chinoise. Donc il y a comme ça des contradictions, on a du mal à y voir clair.
Kenneth Weinstein, on a du mal à Paris à voir clair sur les lignes de politique étrangère de Trump. Est-ce que depuis Washington, les choses sont beaucoup plus claires?
Pour moi, il semble beaucoup plus clair, mais certainement il y a des contradictions autour de sa politique qui doivent se tuer. Donc, sur le Proche-Orient, la question globale, c'est les décisions de l'administration de rebalancer la politique américaine après l'accord avec l'Iran, de rebalancer dans la direction contraire de Barack Obama, c'est-à-dire vers les alliés sunnites des États-Unis, donc c'est-à-dire certainement l'Arabie Saoudite, les Émirats et aussi Israël de quelque manière. Mais le problème au sein de cette politique, c'est que le président lui-même souhaite pas avoir une empreinte large au Proche-Orient comme Barack Obama. Donc, ce qu'on vient d'être évoqué, il y a une évolution de la politique de Trump à l'égard du Proche-Orient. Donc, à l'égard de la Syrie, au premier temps, il pensait que les Russes allaient être nos partenaires pour la lutte contre Daesh. Et ensuite, il a vite compris que c'était pas, on peut pas avoir une espèce de lien avec les Russes. Et donc, nous sommes en train d'essayer de monter une politique en Syrie dans une situation très difficile à cause du vide en Syrie qui était rempli par Assad lorsque les États-Unis sous Barack Obama ont décidé de ne pas s'attaquer contre les armes chimiques d'Assad, de ne pas prendre une rôle active avec l'opposition en Syrie. Donc, l'alliance avec l'Arabie Saoudite n'est pas mise en question par l'administration, mais certainement le meurtre de Khashoggi complique énormément à la politique américaine dans la région, qui est certainement un vent d'armes qui est important, mais c'est pas la seule chose. On a besoin de l'Arabie Saoudite contre l'Iran sur toutes les bases. Surtout que, dans le sens que le président ne souhaite pas avoir un impact américain important sur le sol.
Alors, on peut peut-être poursuivre sur autre chose. Marie-Cécile Nave évoquait la Chine. La question qui se pose, parce que c'est vrai que l'attitude de Trump vis-à-vis de Pékin, elle est assez tranchée. Rien ne laisse supposer que la méthode Trump vis-à-vis de la Chine ne serait pas ou ne pourrait pas être positive finalement et obliger la Chine à mieux respecter les règles occidentales du commerce international, Sylvain Sipel.
Il y a deux aspects. Il y a ce que vous dites. Je faisais une interview récemment avec un politologue américain. Avec la Chine, il me disait « Trump s'y prend pas bien, mais en revanche, il pointe un vrai problème. Mmh. » Et là-dessus, il y aura beaucoup d'Américains pour le suivre. Mmh. Alors effectivement, on peut voir cet aspect des choses. La question qui est posée, est-ce que la méthode utilisée ne risque pas d'être beaucoup plus bénéfique à la Chine qu'elle ne l'est aux États-Unis? Je vais donner quand même un chiffre, hein. Il faut le rappeler. On peut ramener trois boîtes de métallurgie qui travaillaient en Chine aux États-Unis. Enfin, aujourd'hui, les États-Unis ne produisent plus en biens de consommation manufacturiers. Ils ne produisent plus que 10% de ce qu'ils consomment. Tout le reste, ils l'importent. Et ils l'importent beaucoup de Chine. Pas seulement, mais pour beaucoup de Chine. D'où le déficit de commerce avec ce pays. Ce que fait Trump aujourd'hui, avec l'augmentation des barrières douanières, il s'avère que de plus en plus d'Américains, y compris de producteurs américains, commencent à s'en inquiéter très fortement. Certains en bénéficient, c'est indubitable. Mais de plus en plus commencent à s'en inquiéter, y compris, par exemple, au niveau des grands producteurs agricoles. De ce point de vue-là, je ne suis pas du tout certain que ce soit une politique qui bénéficie au peuple américain et aux intérêts économiques américains. Je parle là non pas sur un plan idéologique, mais sur un simple plan business. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La seconde, c'est que tout ça ne va pas sans de la politique. Et qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé avec les accords commerciaux asiatiques en Asie, le retrait des États-Unis a été un bénéfice extraordinaire pour la Chine.
Pour la Chine. Alors, à tout cela s'ajoute une inquiétude des Européens. Marie-Cécile Nave, ce sera presque l'aspect en guise de conclusion de cette émission, avec, comme je le rappelais tout à l'heure, Trump qui a été le premier président américain depuis 1945, considéré comme une ennemie, l'Europe, ennemie des États-Unis.
Oui, l'Europe est un petit peu au pied du mur dans sa relation avec les États-Unis, parce qu'elle est menacée pour ses entreprises de sanctions si celles-ci continuent à faire du commerce avec l'Iran. Mais autant là, il semble qu'il y a un semblant de début d'organisation pour faire une sorte de troc. Oui, voilà, une économie du troc, pétrole contre marchandises européennes. Autant dans la poursuite de la guerre commerciale directe que les États-Unis ont commencé de faire avec l'Europe sur l'acier et l'aluminium. Il n'y a pas de... Là, les pays européens n'arrivent pas vraiment à s'accorder, et comme de plus en plus de pays européens sont aux mains des populistes qui se reconnaissent dans Trump et qui ne veulent pas avoir une réponse unie contre lui, l'Italie, la Hongrie, la Pologne et peut-être demain d'autres pays encore, eh bien on est quand même un peu inquiet sur la capacité de l'Europe de parler d'une seule voix face aux États-Unis.
Alors, une inquiétude qui pourrait éventuellement être levée en fonction du résultat de l'élection de demi-mandat et selon qui emportera la majorité à la Chambre des représentants, étant entendu qu'au Sénat américain, les Républicains ne devraient pas perdre cette majorité. Merci à chacun. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis Washington, Kenneth Weinstein, et que vous êtes président et directeur du think tank Hudson Institute. Merci. Merci aussi à Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS et auteure de Trump, La revanche de l'homme blanc chez Textuel et géopolitique des États-Unis chez Erol, et Sylvain Sipel, journaliste et écrivain, auteur de Un nouveau rêve américain, La fin de l'Amérique blanche aux éditions Autrement, et Un Trump, ça tweet énormément aux éditions du 1. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez pour Géopolitique. À très bientôt.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.